Allô, eh ben Daniel, tu as dit qu'on pouvait appeler pour un coup de gueule ou un coup de cœur, et moi c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré cette émission. Donc, à bas les franchises médicales, et merci, merci beaucoup. C'est Marie de Chambéry.
Oui, bonjour. Je viens juste d'entendre votre émission sur les franchises médicales, et donc je voulais répondre à ce monsieur qui dit que la sécurité sociale, c'est nul et qu'il faudrait qu'on soit tous dans des sécurités libérales. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots à la radio, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était vraiment un gros con de donner cet exemple de la mamie de 90 ans. Est-ce qu'il faut continuer à s'acharner? J'invite ce monsieur à venir faire un tour dans les hôpitaux et je lui souhaite vraiment, mais vraiment, c'est pas gentil, mais quand il aura 100 ans, puisque lui il est jamais malade, et que sa femme en aura 90 et qu'elle sera par contre malade, qu'on vienne lui dire que c'était pour des raisons financières qu'il faut arrêter de soigner sa femme qu'il a aimée toute sa vie. Voilà, merci beaucoup pour votre émission. Une dernière petite chose, je trouve ça vraiment très rigolo de passer la publicité de l'Euromillion juste après tout ce qu'on vient d'entendre. Voilà, bon, bah écoutez, c'est Charlotte qui est du Vigan. Merci, ciao.
Oui, allô, bonjour. Voilà, je voudrais réagir au coup de téléphone, le coup de téléphone pour connaître le trou de la défense et la théorie comme quoi les Parisiens payent comme les autres pour la défense des frontaliers. Voilà, j'habite dans un village dans les Pyrénées et je voudrais rappeler à ces Parisiens, à ces chers Parisiens, que malgré le service public que tous les Français payent, que nous, tous nos services publics sont à 50 km minimum, donc 100 km aller-retour, juste pour répondre à une convocation de l'NPE, des ACDIC ou de la CAF. Aller à la préfecture, c'est 200 km, aller-retour. Et je ne parle pas du culturel, cinéma, théâtre, concert. Donc, je suis quand même ravi que les Parisiens payent eux aussi pour me protéger d'une invasion espagnole. Voilà, c'était dans les Pyrénées, c'est Nicolas, dans la Haute-Vallée de l'Aude. Salut.
Bonjour, Gilles Dalby. Je suis surpris de voir que certains découvrent le principe de la franchise médicale. Moi, j'en paye une depuis que je suis né, les frais d'optique. 300 euros de verre correcteur, la Sécu me rembourse 10 euros. Je paye donc 290 euros de ce qui ressemble tout à fait à une franchise médicale. Ben oui, je la paye à chaque fois, directement via une mutuelle. 290 euros, on est loin des 0 à 50 euros par an. Et c'est pas une question de catégorie sociale. Il y a des binoclars riches, il y a des binoclars pauvres qui payent tous cette franchise médicale de binoclars. Et tout le monde trouve ça normal. Il y a toujours eu une injustice sociale dans la Sécu. Cette injustice, c'est la part non remboursable des soins systématiques. Sarkozy n'a rien inventé. Il rend juste visible ce que personne ne voulait voir jusque-là. Allez, salut à tous les opprimés, modestes et géniaux qui portent des lunettes.
En 2006, j'ai coûté 38 161 euros à la collectivité, ce que la Sécu n'a pas manqué de me faire savoir, je m'en doutais un peu. Malade, certes, et gravement, mais pourtant ni coupable. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je faisais du sport, et je veillais à ce que je mangeais, ni totalement irresponsable, n'en déplaise à M. Sarkozy. Et cela, bien que je sois prise en charge à 100% par la Sécu, je n'ai pas résilié pour autant ma mutuelle, qui me coûte pourtant fort cher chaque mois, surtout si je tiens compte de la paupérisation subie avec cette retraite forcée. Je tiens donc à vous dire deux choses. Premièrement, je refuse le cynisme de votre auditeur, qui va si bien depuis tant d'années, que faute de voir pourquoi il cotiserait encore, il envisagerait presque de faire piquer les malades de mon espèce. Après tout, il est vrai que je coûte désormais. Enfin, j'ai cotisé 37 ans. Enfin, je coûte, et sans rien rapporter. Encore qu'après tout, mes trois fils sont des contribuables dûment sollicités. Bref, deuxièmement, je refuse également qu'on passe sous silence la responsabilité de certains médias quant aux antiennes contemporaines les plus perverses. Et les journalistes laissent dire et servent souvent de porte-voix. Quand ils sont complices, les malades apprennent qu'ils auraient dû se nourrir de quinoa et de curcuma pour éviter leur cancer. Honte à David Servan-Schreiber de rentabiliser ainsi sa guérison. Je crois qu'on pourrait peut-être consacrer une émission sérieuse aux acquis du Conseil général de la Résistance, essayer de retracer les grandes étapes de l'établissement de ce trou de la Sécu à partir de l'effacement progressif des garde-fous posés au lendemain de la libération.
La sécurité sociale a un nom. La Sécu n'est pas soumise au principe de l'économie de marché, mais de l'économie dirigée. La Sécu n'est pas soumise à la logique de la concurrence, mais socialisée. La Sécu n'est pas soumise au principe de l'offre et de la demande, mais des tarifs administrés. La sécurité sociale, c'est l'expression du programme du Conseil national de la Résistance. Un homme incarne ce vent d'invention sociale. Le ministre communiste du Travail, en 1945, Ambroise Croizat. Les mots d'Ambroise Croizat à chaque réunion de groupe de travail. Mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin. En finir avec les angoisses du lendemain, avec la souffrance, le rejet et l'exclusion. Jamais nous ne tolérerons qu'un seul des avantages de la sécurité sociale ne soit rogné. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès. C'est Régis de Nîmes. Merci, au revoir.
Bonjour, c'est Jacqueline en Vendée. Il se trouve qu'à notre repère d'hier soir, on a échangé quelques infos sur le trou de la Sécu. Voici, après publication des comptes consolidés de la Sécu pour 2003, le bilan des dettes de l'État. 7,8 milliards non reversés sur les taxes sur le tabac. 3,5 milliards non reversés sur les taxes sur l'alcool. 1,2 milliard non reversés sur les taxes sur les industries polluantes. 2 milliards de TVA non reversés. 2,1 milliards de retard de paiement sur les contrats aidés. Ça fait déjà 16,6 milliards d'euros, auxquels on peut rajouter 1,5 milliard non reversés des assurances auto sur les accidents de la route, 1,9 milliard de retard de paiement par les entreprises. Bon, ça fait déjà 20 milliards, et ben, c'est une bonne nouvelle ça, notre solidaire Sécu, elle n'est pas en déficit, elle est en excédent. Allez, bonne journée.
Eh ben voilà des renseignements généreux qui sont bien intéressants. Et qu'on entend de toutes parts, il faudrait sans doute les prouver un petit peu, mais il semble qu'il y a une grande part de vérité dans ce que l'on vient d'entendre. Franchise médicale, donc, ça vous a beaucoup, beaucoup intéressé, cette question vendredi. Et du coup, avec Renaud Lambert, aujourd'hui, on en remet une deuxième couche. Vous parlez aussi beaucoup, en ce moment, du CNR, du Conseil national de la Résistance, avec cet hommage à Ambroise Croizat, eh bien, vous avez bien raison, parce qu'il semble bien que c'est bel et bien cet esprit et cette base, ce socle de la France sociale qui est mis en cause actuellement. Alors demain, eh bien, on reviendra sur le CNR, l'esprit et l'histoire du CNR. Quant à nous, nous partons pour Cuba et pour Bogota. On va peut-être partir. C'est pas sûr du tout. Il se pourrait bien que la ligne sur laquelle nous partions s'appelle R, peut-être. Mais on ne désespère pas quand même de pouvoir décoller. Et qu'est-ce qu'on va faire à Cuba? Et qu'est-ce qu'on va faire à Bogota? Vous le saurez dans le prochain épisode de la base, si j'y suis. D'ici là, donc, aujourd'hui, franchise médicale, deuxième couche, et encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et tous. J'avais envie aujourd'hui de proposer une réflexion à chacun qui nous est fournie par un fleuron de la presse bourgeoise, l'Express, sur le principe de la réussite, de la reconnaissance du mérite dans l'organisation sociale. Eh bien, ce journal, l'Express, prend le cas de Madame Dati. Madame Dati a réussi son entrée dans la magistrature à l'ENM, non pas sur concours, comme la plupart des magistrats, mais sur dossier. Son dossier a été examiné avec une extrême bienveillance. Et puis, surtout, Madame Dati a bien traduit son mérite en prétendant qu'elle avait un diplôme de HEC, ce qui se révèle être faux. Donc voilà le mérite vu par nos gouvernements tricheurs.
Oui, bonjour. Moi, j'ai envie de dire que le Grenelle de l'environnement est une vaste fumisterie, un petit peu comme tout le grand guignol qu'on a en France depuis un certain temps, je dirais même ailleurs, et que toutes les petites luttes que nous faisons à côté ne servent pas à grand-chose. En fait, j'aimerais comme slogan le capitalisme ou la vie, parce que le capitalisme est comme le monstre de l'histoire sans fin, un monstre aveugle et sourd qui dévore le monde. Et si on ne rassemble pas nos forces pour lutter contre d'une manière, disons, pacifiste, si le désobéissance civile ou, bon, quelque chose d'assez contrôlé, il va se lever, il se lève déjà contre lui une violence épouvantable, aussi aveugle et sourde que lui-même. C'est-à-dire que bientôt, il y aura de plus en plus de désespérés qui n'auront d'autre choix que de mourir en faisant mourir d'autres. Ça, disons qu'il faut relire Baudrillard, le pouvoir symbolique ou la mort. Et ça serait peut-être intéressant de lui faire un hommage, vu qu'il est mort il y a déjà à peu près un an, je crois, un hommage à Jean Baudrillard avec Alain Cardo. Ça serait quelque chose de super. Une analyse du livre La société de consommation permettrait peut-être d'analyser un petit peu ce qui se passe et d'arrêter de disperser nos forces partout. Voilà. Donc le capitalisme ou la vie.
Le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, 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 au franchise médical.
Nous ne sommes pas mariés.
Quand 10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux, ils ne voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire.
Nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment, et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne.
Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on le passe au privé.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Nous ne sommes pas coupables d'être malades.
Flight number 2, arriving from...
Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 euros sur les transports sanitaires. Cette franchise, je souhaite qu'elle s'accompagne de 3 garanties au moins. Je souhaite d'abord un plafond global annuel de l'ordre de 50 euros. Je ne veux pas que la franchise puisse coûter plus de 50 euros à un assuré par an. 4 euros par mois. Qui va oser me dire que, compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois?
C'est dit si gentiment, si généreusement, avec cette pointe de compassion qui est à la politique ce que la gousse d'ail est au gigot du dimanche. 4 euros, 0,50 centimes d'euros, c'est si peu, c'est si bon qu'on se demande bien pourquoi ça grogne, pourquoi ça râle et pourquoi ça pétitionne. Derrière cette franchise médicale, mesure phare du projet de budget 2008 de la Sécu, des archaïques râleurs voient un projet de privatisation progressive de la protection sociale. Progressive, c'est comme pour faire cuire une grenouille. Il est préférable de la mettre dans l'eau froide et de chauffer peu à peu. Elle ne s'en rend pas compte. Voilà ce qu'ils redoutent. Pour eux, à les entendre, l'assurance maladie solidaire est en danger. Il faut dire que déjà 15% des Français déclarent renoncer à des soins pour raisons financières. Il faut dire aussi que ce projet est très impopulaire et que ça risque de chauffer dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, j'y suis.
Je vais vous parler d'une tribu, vous les avez sans doute vues. Il y en a beaucoup par chez nous, on les appelle les Tamalous.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou, Leur but est de communiquer les bonnes adresses pour se soigner quand l'un d'entre eux sort un cachet. La discussion est amorcée.
Dis-moi si ton toubib est bien, qu'est-ce qu'il te donne pour le mal de rein? Moi j'en ai un pour la sciatique, il me donne des trucs fantastiques.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
ah.
Le mien pour ceux qui sont nerveux, quand les doigts qui bégayent un peu, il te file un décontractile, dans tous les cas, te fais pas de bile.
Je souffre d'un excès de poids, tout sur les traves, ça va de soi. Et j'aime trop ce qui est bon, j'ai un chouïa d'hypertension.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
la couillon.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
ah.
En ce moment ça va pas trop mal, mais un jour viendra, c'est fatal. Quand on partira en biou, on sera les rois des Tamalou.
Tamalou,
toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
oh.
Et même en plus, si on picole un peu trop de vin, un petit coup d'iol et qu'on va un peu trop en piste, on ajoute le foie sur la liste.
Tu as les doigts de pied qui te piquent, c'est un excès d'acide urique. La prostate qui est bien trop grosse, faut souvent faire pleurer le gosse.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
ah.
Des fois, on a surplus des masses, et là, les raideurs se déplacent. La vue qui part en sucette, il faut encore changer de lunettes.
À force de prendre des cachets bleus pour rester jeune, les petits vieux seront vaccinés contre tout, mais seront quand même des Tamalous.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
oh.
En ce moment ça va pas trop mal, mais un jour viendra, c'est fatal. Quand on partira en biou, on sera les rois des Tamalous.
Bonjour.
Bonjour madame, j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir un rendez-vous.
Vous quittez pas un petit instant?
Oui.
Merci. J'ai une place qui s'est libérée cet après-midi, si ça vous intéresse.
Cet après-midi, oui. Oui, c'est
à possible. À 16h, ça vous va?
Oui, d'accord, très bien.
Vous l'avez déjà vu ou pas?
Non, ce serait la première fois.
Alors, votre prénom?
Daniel.
Très bien, donc on dit cet après-midi à 16h.
Très bien, je voulais juste vérifier. Moi, je suis à la CMU, ça pose pas de problème.
C'est-à-dire que normalement, il les reçoit à l'hôpital Ambroise Paré, ça.
Ah, d'accord.
Vous voulez que je vous donne le numéro pour prendre rendez-vous avec lui là-bas?
Oh bah, sinon, je peux. Cet après-midi, c'est pas possible?
Aussi, mais pas ici.
Ah bon?
Enfin, à Ambroise Paré, c'est pas moi qui ai le planning.
Ah bon, d'accord. Mais dans son cabinet, il reçoit pas pour les
non,
gens.
Non, il les reçoit à Ambroise Paré.
D'accord. Pourquoi?
Parce que c'est pas les mêmes tarifs.
D'accord.
Ouais, simplement.
Mais moi, je suis remboursé, quoi. C'est,
oui, mais là, ici, c'est 70 euros la consultation.
Ah, d'accord. Très bien. Je vous remercie, voilà. Madame. Au revoir.
Je vous en prie, au revoir.
À l'Ambroise Paré, bonjour. C'est très occupé, l'ophtalmologie. Vous patientez?
Oui.
Bon, nous allons prendre votre appel. Situé aux portes de Paris, 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241. Bonjour, l'hôpital Ambroise Paré met ses équipes à votre service. Merci de patienter quelques instants, nous allons prendre votre appel.
4 minutes d'attente.
Situé aux portes de Paris, 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241.
Centre universitaire de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, nous sommes dotés de 468 lits de court séjour.
Bonjour, l'hôpital Ambroise Paré met ses équipes à votre service.
12 minutes d'attente.
Merci de patienter quelques instants, nous allons prendre votre appel. Situé aux portes de Paris, 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241.
Les pathos.
T'as l'embrasse Paris, bonjour.
Bonjour madame, j'aurais voulu un rendez-vous en ophtalmologie, s'il vous plaît.
Je vais essayer, hein. Je crois qu'il y a qui t'est...
Ça fait maintenant 19 minutes que j'ai commencé mes appels pour prendre un rendez-vous.
Ophtalmologie, bonjour.
Bonjour madame, c'est pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît.
Oula, ça va être décembre maintenant, hein. Vous l'avez déjà vu ou...
Bah non, mais en fait, je viens d'appeler à son cabinet. Il y avait un rendez-vous cet après-midi, mais quand je lui ai dit que j'étais à la CMU, ça, on m'a renvoyé ici.
Ah oui, mais j'ai pas de place dans l'immédiat. C'est pour ça que je... Et là, tout est chargé, tout est complet, hein.
Ouais, donc les gens comme moi, la CMU, ils doivent attendre jusqu'en décembre, quoi.
Ah oui.
Bon, bah, décembre, alors.
Eh oui, deux vitesses. La médecine à deux vitesses, la santé à deux vitesses, on connaît déjà cette notion, on l'observe, on la dénonce, bien évidemment. Alors, le président de la République a parlé de responsabilité. Il a bien insisté sur ce thème et ce terme de la responsabilité. Alors, le trou de la sécu, est-ce bien vraiment entièrement la faute du malade, du patient qui fraude, qui triche et qui est irresponsable? En soumettant les stock options à cotisation sociale à même niveau que les salaires, on pourrait faire rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance maladie. Qui a dit ça? Un épouvantable gauchiste? Pas du tout. C'est Philippe Séguin. 3 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas là une notion de responsabilité qui pourrait être appliquée? Question et partie de la réponse.
À notre manif de jeudi, on était 12 000. Il y avait des banderoles toutes les 2 mètres et pas sur une seule banderole. Il y avait marqué « Pour la liberté d'installation ». Les banderoles étaient claires, c'était « Sauvons la sécu ». Tous les titres des journaux télévisés et écrits étaient « Les intermanifestes pour la liberté d'installation ». Et ça, c'est inadmissible.
Ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que ça ne concerne pas les médecins, ça concerne tous les Français. Tout ça, c'est de la démagogie, c'est des prétextes. Là, ce qu'on veut faire, c'est on dit aux médecins « Si vous allez dans les zones surdenses, vous allez être déconventionnés ». Un médecin, il s'installe en moyenne à 39 ans. À 39 ans, une femme, des enfants, 30% minimum vont rester là où ils sont. Ils vont pouvoir ouvrir leur cabinet. En ouvrant leur cabinet, ils seront déconventionnés. Les patients ne seront pas remboursés. À partir de là, au fur et à mesure, les patients, quand ils vont voir que des médecins, il faut attendre 5 heures pour aller les voir, ils vont aller voir les autres, où il n'y a qu'une demi-heure ou une heure. Les assurances privées vont se faire un plaisir de...
Quitte à payer plus.
Quitte à payer plus, les assurances privées vont se faire un plaisir de rembourser intégralement ces patients-là et de prendre en charge ces patients-là. Quand 10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux, ils ne voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire. Si tout le monde n'est pas solidaire, c'est la fin de la sécurité sociale. Tout ça, c'est démagogique. C'est mettre la population contre les soi-disant médecins qui roulent en Porsche et qui ne veulent pas travailler.
En fait, c'est un peu l'adage qui dit « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ».
Exactement. En tout cas, on met en opposition les différents groupes et toutes les valeurs... C'est de la démagogie pure et simple. C'est pas étonnant de la part de ce gouvernement, mais là, c'est poussé à l'extrême.
On a la rage.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical, nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical, nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical, nous ne sommes pas... Non, non, non ! Nous ne sommes pas !
Ce qu'on voit depuis la réforme d'Oust-Blasi 2004, c'est que des dogmes sont mis en place, qui sont des dogmes libéraux, comme le fait qu'il faut responsabiliser les patients, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que moi je ne sais toujours pas comment on responsabilise un cancéreux ou un dialysé, mais je pense que d'Oust-Blasi lui doit savoir. Tous ces dogmes, ça ne fonctionne pas, ça augmente le coût des soins, ça dissuade les plus faibles d'avoir recours aux médecins, ça aggrave donc l'état sanitaire de la population. On sait qu'un nombre grandissant de Français renoncent à des soins de médecine, des soins dentaires. Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on passe au privé.
Appel contre la franchise, c'est un groupe et c'est un site aussi qui s'est constitué, www.appelcontrelafranchisetoutattaché.org, qui a lancé une pétition qui a eu pas mal de succès, au moins 70 000 signatures. Et parmi les instigateurs de ce mouvement, il y a Christian Lehmann, qu'on vient d'entendre, qui est médecin généraliste et qui est également écrivain. Christian Lehmann.
L'idée est véhiculée par Nicolas Sarkozy qui, après avoir dit « Y a-t-il une assurance sans franchise ?», dit clairement
« Nous parlons d'assurance maladie. Y a-t-il une assurance sans franchise ?» Non.
Pour moi, la franchise est incontournable. Elle serait payée, pensait-il alors, chaque trimestre et elle aurait vocation à augmenter.
Si les dépenses augmentent et donc le déficit augmente.
Si le trou de la sécu augmente et donc, soyons clairs que les Français n'ont pas été vertueux. Et si par contre le trou de la sécurité sociale diminuait, ce qui sous-entendrait que les malades ont fait attention.
Si les dépenses d'assurance maladie diminuent et donc le déficit diminue, on pourra alors, à la suite du débat au Parlement, baisser le montant de la franchise.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économie pour savoir que le trou de la sécurité sociale, ce n'est pas un trou dans lequel on peut tomber, c'est une construction intellectuelle à partir des recettes et des dépenses. Et évidemment, Nicolas Sarkozy s'intéresse au volet dépenses, mais refuse de s'intéresser au volet recettes, parce que sinon il serait obligé de tirer les mêmes conclusions que par exemple Philippe Séguin, et de dire que l'un des problèmes de la sécurité sociale et de la protection sociale en France, c'est que cette protection sociale, elle est essentiellement financée par le travail, par les cotisations, le salaire indirect, les cotisations des travailleurs, de ceux qui sont censés travailler plus pour gagner plus, pour demain pouvoir peut-être payer une partie de leurs soins. Mais en l'espace de 25 ans, il y a 10 points du produit intérieur brut qui sont passés de revenus du travail aux revenus financiers, et eux, merci pour eux, s'en exonèrent facilement. Là, avec les franchises, au maximum, on tirerait 850 millions d'euros chaque année en allant chercher de la menu-monnaie dans la poche des plus faibles et des plus malades, alors que Philippe Séguin, qui n'est pas quand même le sous-commandant Marcos, explique simplement, benoîtement, qu'en taxant les stock-options, on récupérerait 3,5 milliards d'euros. Et il y a plein d'autres revenus financiers qui sont moins taxés que les revenus du travail. En gros, un Français paye entre 18 et 20% de son salaire indirectement pour la sécurité sociale. Je suis sûr que si on demande à un économiste cohérent, il nous démontrera que ce n'est pas du tout le cas pour les revenus financiers. Mais Nicolas Sarkozy, son but justement, c'est de masquer cette réalité et de faire croire aux Français que le trou augmente ou diminue uniquement en fonction de leur consommation de soins irrationnels, alors même que c'est l'ensemble du système qu'il faudrait revoir. Mais il faut être clair, à plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy, lors de cette convention santé, ou François Fillon ailleurs, dira
que... Il me semble que l'objectif ne peut pas être de dépenser moins. Non mais ça, enfin, c'est un combat politique que je suis prêt à mener, et je ne vois pas pourquoi on se réjouirait de dépenser plus pour nos loisirs et qu'on n'accepterait pas de dépenser plus pour notre santé. C'est un choix politique qui est incontournable et qu'il faut, cher Michel Chevalet, affronter tel quel.
Ils n'ont aucun problème à ce que les dépenses de santé augmentent. Sous-entendu, à partir du moment où elles ne seront plus socialisées. Comprenez-moi, si demain ce sont les assurances privées qui prennent ce marché, quand les dépenses de santé des Français généreront de l'argent pour les actionnaires des assureurs privés, on ne les verra plus aux gémonies, on ne dira plus du tout que c'est un problème. Ce qui pose problème à la droite libérale financière, c'est que les dépenses de santé en France soient encore en grande partie socialisées.
Vous nous dites que les franchises vont peser sur les gens les plus démunis. Or, on sait qu'en France, on a la CMU, la couverture maladie universelle.
Alors la CMU, ça sert à tout et ça sert à légitimer le recul de l'accès aux soins pour ceux qui sont juste un peu moins pauvres que les plus pauvres. Je m'explique. De même que dans Germinal, on voit que les femmes des patrons des fonderies ont leurs pauvres à qui ils vont distribuer quelques lainages et quelques vêtements usagés, la droite utilise la CMU pour dire « Mais regardez, on a vraiment bon cœur. On n'est pas du tout ces idéologues libéraux que vous croyez. On s'occupe des plus pauvres. » Et, par exemple, ceux qui ont la CMU ne seront pas impactés, ils seront en dehors du système des franchises. Le problème, c'est que quelqu'un qui est adulte handicapé, par exemple, avec un diabète et une amputation, ou qui est séropositif, ou qui vit avec le sida, son allocation adulte handicapé est supérieure de quelques euros à peine au plafond de la CMU, et donc ils vont payer plein pot. Et ça, en plus, un effet qui est très pervers et que je vois souvent au cabinet médical. Des gens qui ont un revenu juste au-dessus de la CMU et qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis obligé de le payer », alors que les autres, ceux qui ont la CMU, sous-entendu, ils abusent parce qu'ils ne payent pas. Et donc, avec la CMU, la droite réussit à faire passer un message de lutte des classes entre les classes les plus fragiles. Chacun désignant, non pas, si j'ose dire, le rentier qui se gave, mais le faible qui a sa carte de CMU, comme étant l'abuseur majeur dans le système. Et ça, c'est extrêmement pervers.
Bonjour. Comment allez-vous? Alors, vous avez fait des hypoglycémies dans la nuit, le sucre est trop bas, d'accord? En fait, vous avez 4 piqûres par jour. Donc, il y a une piqûre d'insuline lente qui dure 24 heures. Ok. Et 3 piqûres d'insuline rapide qu'il faudra faire que quand vous mangez, avant le repas. D'accord. La piqûre d'insuline rapide, elle dure 4 heures à peu près. Et il faut garder les glycémies, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang au bout du doigt, 2 heures après les repas. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous n'allez pas être très bien. On va surveiller de façon très rapprochée votre glycémie, mais à mon avis, vous allez faire pas mal d'hypo. D'accord ? Au revoir, monsieur.
Le diabète, c'est un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé.
Il y a combien de malades du diabète en France ?
Il y a environ 2,5 millions de diabétiques en France, en sachant que c'est pour moi un peu plus, et il y en a environ 500 000 qui s'ignorent. C'est quelque chose de très sérieux et c'est même un véritable problème de santé publique parce qu'on voit actuellement, en France, mais dans tous les pays du monde et dans tous les pays en voie de développement, une augmentation dramatique du nombre de diabétiques.
Voilà. La franchise, ce n'est pas la seule modification qu'on connaît dans le domaine de la santé. À l'hôpital, ici, il y a une grande réforme, qui, ce qu'on appelle la T2A, nom de code pour la tarification à l'activité. Alors, en deux mots, c'est quoi la T2A?
C'est-à-dire que ce sont les actes que l'on paye directement. Et ce n'est plus des durées d'hospitalisation, ce ne sont plus des coûts globaux. Et donc, quand pour un acte donné, on a intérêt à en faire le plus possible et à garder les malades le moins longtemps possible. Alors, il y a des structures qui réussissent ça très bien. L'hôpital qui a une nécessité de service public ne peut pas toujours le faire. Quand on voit un patient qui est des milieux sociaux défavorisés, où on sait très bien qu'il a une plaie au niveau du pied, que dans l'idéal, il pourrait retourner chez lui et faire des soins par une infirmière à domicile, dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand il n'y a pas ces conditions d'hygiène autour de lui, qu'il est isolé, et bien souvent, on est bien obligé de le garder à l'hôpital ou de le mettre dans des structures de cicatrisation, de moyen séjour, qui vont coûter nettement plus cher et donc qui seront peu rentables. Si vous prenez l'exemple des problèmes de pied chez nos diabétiques, c'est vrai que dans certains cas, il serait plus rentable d'amputer d'emblée au niveau du pied que de tenter de sauver un pied avec des traitements médicamenteux, des antibiotiques parfois coûteux qu'il faut mettre pendant plusieurs jours, voire semaines en perfusion pour essayer de sauver un pied.
Alors évidemment, ça pour l'instant, on n'en est pas encore là. Personne n'est tombé dans cette logique.
On n'en est pas encore là, mais peut-être qu'un jour, on va se poser la question devant un pied grave, de se dire, est-ce que ça vaut le coup de tenter un mois de traitement pour sauver le pied? Est-ce qu'on ne devrait pas raccourcir et aller directement au geste chirurgical pour économiser plusieurs semaines d'hospitalisation? C'est clair que la rentabilité et la mise de la T2A comme mode de financement de l'hôpital risquent de contraindre certaines structures à s'orienter vers des malades rentables et refuser les malades qui ne le sont pas. Et donc, on risque d'avoir deux systèmes de soins, des systèmes où on fait de la rentabilité et d'autres qui vont être malheureusement rapidement en déficit parce que n'étant pas dans la rentabilité, mais plus dans la situation de malades coûteux qu'on refuse de prendre des structures privées rentables.
Rentabilité, déficit, malades coûteux, malades rentables. Le dogme de l'inégalité, le voilà sous la forme de la santé publique, sous la forme de l'hôpital. Alors, on voit qu'il n'y a pas que les franchises médicales qui sont dans ce projet de modification, on va dire de réforme, de la sécurité sociale, de la protection sociale, mais il faut que ça passe, parce qu'il y a eu des échecs. Plusieurs gouvernements, souvenez-vous, qui ont échoué à transformer et à faire advenir la privatisation de cette énorme citadelle, évidemment, qu'est la protection sociale et la sécurité sociale. Alors, comment faire ? Christian Lehmann.
Le 31 juillet 2007, voyant que la franchise ne passe pas,
4 euros par mois.
Parce que les Français sont rétifs à cette notion de responsabilisation des malades par l'argent. Nicolas Sarkozy descend à Dax, s'entoure de patients âgés dépendants qui ont une maladie d'Alzheimer.
Qui va oser me dire ?
Et des sanglots dans la voix nous expliquent qu'en fait...
4 euros par mois. Qui va oser me dire ? Que compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois.
C'est pour mieux prendre en charge les défis du 21e siècle que sont le cancer, les soins palliatifs et la maladie d'Alzheimer qui va mettre en place ces franchises. Ce qui est conceptuellement, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il s'entoure de patients âgés pour tirer une larme au peuple de France, alors même qu'en fait, il met en place un système qui va d'abord taper sur ces patients âgés. Parce que comme ils sont âgés, qu'ils sont dépendants, qu'ils ont une maladie d'Alzheimer, ils vont payer le forfait sur les boîtes de médicaments, ils vont payer les forfaits sur les actes de kinésithérapie, sur les actes infirmiers et sur les transports sanitaires.
Ça va s'élever à combien pour eux ?
Ça va s'élever à 50 euros parce qu'ils vont être probablement au maximum. Mais c'est 50 euros là-dessus, plus 50 euros sur les consultations médicales, plus les forfaits hospitaliers, et ça peut continuer comme ça. Donc on se retrouve devant une diminution de la couverture des gens qui sont vraiment malades. Alors que ce qu'il faudrait poser, je le redis, c'est la question de la cotisation des revenus financiers. Mais c'est une question qui évidemment fâche, dans la mesure où on nous dit toujours que le coût du travail est trop cher en France et qu'il ne faut, faut pas embêter les investisseurs, sinon ils partiront ailleurs. Bah, qu'ils partent.
Bon, alors là, vous nous dressez un tableau un peu noir, donc d'une droite qui voudrait la mort de notre sécurité sociale héritée du Conseil national de la Résistance. Or, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quand même pas une révolution, c'est simplement de mettre à contribution les gens pour 50 petits centimes d'euros par boîte de médicaments et 1 ou 2 euros par acte médical, si je me trompe pas. Ça va quand même pas leur mettre le couteau sous la gorge à ces Français.
Alors, le problème, c'est que pour certains, ça met le couteau sous la gorge et ce n'est... Vous savez, c'est comme le crocodile qui, s'il vous mange la jambe petit morceau par petit morceau, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que vous ne pouvez plus marcher. D'accord ? Donc on vous met un forfait hospitalier, c'est-à-dire quelque chose que vous payez chaque jour quand vous êtes à l'hôpital et qui n'est pas remboursé.
Ça, c'est déjà en place ?
C'est déjà en place depuis des années. Il commence très petit et puis petit à petit, il se retrouve à 15 euros par jour. Et vous vous retrouvez avec des gens qui ont des pathologies lourdes, qui ont des diabètes, des amputations, qui ont des problèmes cardiaques, qui sont pris en charge en affection longue durée, donc qui normalement ne paieraient pas leurs soins, mais qui refusent de se faire hospitaliser parce qu'ils ne peuvent pas payer 10 jours d'hospitalisation, 10 jours de forfait hospitalier. Donc, effectivement, on peut voir le forfait que Nicolas Sarkozy veut mettre en place sur les boîtes de médicaments, sur les actes infirmiers, sur les actes de kinésithérapie, sur les transports sanitaires, comme le simple prolongement du forfait qui a été mis en place sur les consultations médicales en 2004 par Douste Blasi.
Donc il y a déjà un forfait en place.
Il y a déjà un forfait sur les consultations pour responsabiliser les patients. En 2004, Douste Blasi invente le forfait, la retenue de 1 euro sur les consultations, en nous expliquant que ça va générer des économies et qu'en 2007, la sécurité sociale sera à l'équilibre. Mais c'est 50 euros là-dessus, plus 50 euros sur les consultations médicales, plus les forfaits hospitaliers, et ça peut continuer comme ça. Donc on se retrouve devant une diminution de la couverture des gens qui sont vraiment malades. Alors que ce qu'il faudrait poser, je le redis, c'est la question de la cotisation des revenus financiers. Mais c'est une question qui évidemment fâche, dans la mesure où on nous dit toujours que le coût du travail est trop cher en France et qu'il ne faut pas embêter les investisseurs, sinon ils partiront ailleurs. faut pas oublier qu'au moment où Nicolas Sarkozy parle de sa franchise à la Convention Santé de l'UMP, il ne s'agit pas pour lui de mettre simplement en place ce qu'il met en place maintenant, un forfait de 50 centimes par boîte, etc. Il s'agit d'une franchise sèche de 50 à 100 euros par habitant, ce qui veut dire qu'une partie non négligeable de la population, 27% de la population, si la franchise avait été à 100 euros, n'aurait rien touché de la sécurité sociale chaque année, tout en continuant à cotiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système où l'idée de solidarité déjà se délite. Mais si vous avez des gens jeunes, en bonne santé, qui continuent à payer quasiment 20% de leur salaire pour la sécurité sociale, sans toucher un centime de remboursement, parce qu'en fait leurs dépenses sont légèrement inférieures à 100 euros, en quelques années, vous avez totalement détruit dans leur tête l'idée d'assurance maladie solidaire et vous leur rendez extrêmement attractif le discours des assurances privées, qui est un peu le discours du serpent qu'a à Mowgli dans le livre La Jungle. Faites-moi confiance en disant « Mais regardez, la sécurité sociale vous coûte cher, elle ne vous rembourse pas. Nous, pour beaucoup moins cher, on vous prendrait en charge à partir du premier euro. » Évidemment, comme c'est une assurance privée, il faut lire les petites lignes qui disent « On vous prendrait en charge, vous qui êtes jeune, en bonne santé. » Quand vous serez plus âgé, quand vous aurez des pathologies, à ce moment-là, les cotisations exploseront et vous serez amené éventuellement à suivre ou pas.
On peut croire qu'il y a plusieurs vies après la vie. Chez Ascal, nous pensons qu'il y a plusieurs vies pendant la vie. Voilà pourquoi notre métier est d'imaginer des solutions adaptées à chaque moment de votre vie. Ascal, vous avez tant de choses à vivre.
Bonjour.
Oui, bonjour madame. Renaud Lambert à l'appareil. J'aurais voulu prendre une assurance santé. Voilà, j'ai une promotion professionnelle, donc j'ai un peu plus de moyens en ce moment et je voudrais vraiment bien me couvrir, quoi. Et je voulais vos conseils.
Oui, bah écoutez, très bien. Je vais vous demander votre date de naissance.
Oui.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux, évidemment.
Quand vous dites qu'il y a plusieurs niveaux, c'est quoi? C'est en fonction de l'âge ou en fonction de ce que vous proposez comme
service?
Alors,
en fonction, le tarif est en fonction de l'âge, c'est sûr. Et même homme ou femme. Par contre, il y a plusieurs gammes de garanties. Le principe de l'assurance, c'est que tout le monde n'est pas malade en même temps. Donc, ceux qui ne sont pas malades payent pour ceux qui sont malades. C'est ça, le principe de l'assurance.
D'accord. Mais en fait, ça ressemble au principe de la sécurité sociale, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas malades payent pour ceux qui sont malades, quoi.
Oui, c'est le principe de la mutualisation du risque. Sauf que la sécurité sociale, ce ne sont pas des capitaux privés. Donc, ils ne sont pas bien gérés. Nous, justement, nous gérons bien nos cotisations de façon à ce que n'y ait pas le trou de la sécurité sociale dans des contrats d'assurance faits par les assureurs, si vous voulez. Nous, c'est pour ça que nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment, et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne. On fait attention à ne pas prendre n'importe qui.
Pas n'importe qui, voilà, vous avez compris, vous en doutiez, mais c'est quand même pas mal d'entendre ça. Alors est-ce que c'est, un cas particulier? Pas du tout, c'est un principe qui est en application et qui aujourd'hui, dans ce moment décomplexé, se dit tout haut. Ainsi, Denis Kessler, ex numéro 2 du MEDEF, qui dans Challenge du 4 octobre 2007 dit... Le modèle social français, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Illustration.
Mais quand, une fois que j'aurai pris un contrat d'assurance avec vous, moi je peux arrêter de cotiser à la sécurité sociale ou pas?
Non. C'est une obligation. On aurait bien voulu ça. Et c'est justement l'assureur qui voulait supprimer les cotisations de la sécurité sociale. Et ça a été légiféré, ça a été complètement interdit par la loi. Donc ça, si vous voulez, effectivement l'assureur qui va le plus en avant sur ce plan-là, mais la loi, malheureusement, met des freins. Hein.
Kessler, elle était bien chez ça à un moment.
Oui, mais Kessler a été vice-président du CNPF et à la direction de la Fédération française des sociétés d'assurance.
Mais j'ai lu sa tribune dans Challenge il n'y a pas longtemps où il expliquait,
c'est lui qui voulait supprimer ça. Le législateur n'a pas voulu accepter, quoi. Parce que justement, ça mettait en péril la sécurité sociale. À partir du moment où il n'y aurait plus de cotisations, bah alors les gens étant assurés devraient continuer à toucher les prestations, vous voyez.
Ouais, non, je sais bien, mais ça m'intéresse parce que vous y connaissez bien. Parce que moi, j'ai voté Sarkozy en me disant voilà, c'est la rupture, on va enfin en finir avec tout ça, quoi.
Bah, écoutez, il a supprimé déjà beaucoup de choses, hein, les droits de succession pour les conjoints, il les fait évoluer énormément. Mais là, il faudra arriver à des transformations, mais ça peut pas être, ça peut pas se faire du jour au lendemain.
Mais rassurez-moi, vous pensez qu'on va quand même y arriver ?
Je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est... Il fait le maximum de ce qui est possible, hein, je pense. Il va complètement réorganiser tout ça en 5 ans, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que ça...
On est encore dans un système où les gens pensent que c'est gratuit, quoi, c'est ça.
Voilà. Déresponsabilisation des gens depuis 1968 et on aboutit à ça.
Et voilà, 1968, et oui, 1968, c'est l'explication à tout, irresponsabilité, et puis voilà pourquoi. Mais il n'y a pas que cette dame qui pense ainsi, il y a par exemple Éric Prozet d'Alternative Libérale qui lui aussi s'insurge contre cette sécurité sociale.
La seule issue qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui s'est trouvé au Canada, où il y a un certain docteur Shaouli, dont vous entendrez peut-être parler. Il a mené tout un combat, et dont tout le monde pensait qu'il était, que c'était un farfelu qui délirait complètement. Sauf que, eh bien, il a obtenu le jugement au niveau de la plus haute cour de justice canadienne, disant que le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux. Et qu'à partir du moment où la sécurité sociale n'était pas capable de fournir à une personne un service absolument irréprochable, et en l'occurrence il s'est basé sur le cas d'une personne qui avait attendu une opération de la prothèse de la hanche pendant 2 ans, alors que s'il était allé dans un pays comme les États-Unis qui est à côté, ont des systèmes privés, il lui suffisait de payer son intervention et d'être soigné immédiatement. Donc cette personne a dû subir pendant 2 ans des conditions de vie extrêmement négatives, tout ça parce qu'on lui obligeait, entre guillemets, à payer 2 fois. C'est-à-dire on lui disait, vous payez 1 fois pour votre assurance sociale canadienne qui vous coûte les yeux de la tête, et 2e fois pour aller vous faire opérer rapidement dans une clinique privée, de manière à sortir de cette situation. Donc, on voit qu'il existe une issue par rapport aux droits de l'homme, puisque la sécurité sociale se doit, à ce moment-là, si elle ne vous fournit pas d'autres alternatives, elle se doit d'être irréprochable.
Voilà, là-bas, si j'y suis, c'est fini, presque fini pour aujourd'hui. C'était un reportage de Renaud Lambert. Et puis rappelons que cet article du projet de loi de financement de la sécurité sociale, cet article sur les franchises, a été adopté dans la nuit de vendredi à samedi par les députés de la majorité. Merci beaucoup à Christian Lehmann, Didier Ménard et Fatima, André Grimaldi également, Leila Lost et Giovanni, Eva Puccinelli, Lulu et Daniel. À lire, c'est recommandé vivement par l'équipe de Là-bas si j'y suis, Le Fossoyeur de Christian Lehmann, paru aux éditions privées, et Le mythe du trou de la sécu, c'est un livre de Julien Duval, paru aux éditions Raison d'agir. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, parce que toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique Là-bas si j'y suis. Et puis si vous voulez signer la pétition contre les franchises médicales, eh bien vous pouvez aussi trouver le lien sur la page d'accueil de Là-bas si j'y suis, et sinon l'adresse c'est www.appelcontrelafranchise.com. Tout en un mot.org. Voilà, écoutez, demain dans Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet vous le disait, vous allez entendre parler du rôle joué par le CNR. Le CNR, c'est donc le Conseil National de la Résistance, à travers des témoignages de résistants et des témoignages également d'historiens. Et bien justement, écoutons voir ce qu'en disait Maurice Kriegel-Valrimont, un grand résistant décédé l'an passé.
Le mouvement unifié de la Renaissance a tenu à Paris un grand meeting pour l'élection d'une assemblée souveraine, une constitution démocratique et l'application du programme du CNR. Diverses tendances des mouvements de résistance sont ici représentées par messieurs Jacques Kayser, Pascal Copeau, le révérend père Philippe, Pierre Villon, Priegel Valrimont et Emmanuel Dastier.
En 1944, la France est à genoux. 74 départements ont servi de champ de bataille. La production industrielle ne représente que 29% du niveau de 1929. Les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques. La dette nationale a quadruplé. Une foison de billets pourchasse une pénurie de produits. Et donc, c'est dans ce contexte-là que vous, vous êtes complètement inconscient, vous voulez mettre encore plus la France à genoux. C'est dans ce contexte-là que vous décidez qu'il faut mettre en place une sécurité sociale et des retraites. Mais on a dû penser que...
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y ait pas des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire. Ils ont dit, vous êtes fous. La France, c'est bien pire que ça. La France n'avait plus de ponts. La France n'avait plus de charbon. La France n'avait plus d'acier. La France n'avait plus d'énergie. Bien, c'est vrai que c'était à peine concevable. Nous sommes passés outre, tout bonnement. Nous sommes passés outre et nous avons fait les choses. Alors là, la preuve a été faite. L'investissement social est un investissement économique formidable.
Et donc Ornicard, nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Où sont donc sur Ornicard les conjonctions dont vous parlez? Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 barataclao.
La France d'en haut, celle d'en bas,
barataclao,
celle du centre et des côtés,
barataclao.
On nous dit vous vous débrouillez,
barataclao.
On va vous décentraliser,
barataclao.
Vous serez bien sécurisé,
barataclao.
Les effectifs seront doublés,
barataclao.
Et les dispositifs musclés,
barataclao.
Et pour ceux qui veulent renacler,
barataclao.
On leur promet de les boucler,
barataclao.
Ainsi parlent ceux qui tiennent les clés,
barataclao.
Faut dire qu'ils se sentent encerclés,
barataclao.
Dans leurs immenses propriétés,
barataclao.
Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter, pensant bien qu'à l'Assemblée on fait les lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 barataclao.
L'histoire se passe à notre insu,
barataclao.
Dans les salons les plus cossus,
barataclao.
Les décisions les plus values,
barataclao.
Et tout ça finit dans la rue,
barataclao.
On jette l'eau du bain avec l'ONU,
barataclao.
Voici la GCS et toute la clique, mater le service public,
barataclao.
On dit qu'il est caduque, inique,
barataclao.
Pour les libéraux les plus cyniques,
barataclao.
Tout passe par l'économique,
barataclao.
Comme on dit qu'on connaît la musique,
barataclao.
Il nous crée des sigles qui compliquent,
barataclao.
Pour que le guidam n'y comprenne quick,
barataclao.
Tout ça finit par laisser quoi,
barataclao.
Le temps est bien à l'argent roi,
barataclao.
On dit que l'argent c'est du temps,
barataclao.
On n'a plus le temps de prendre le
barataclao.
Temps. Mais où est donc Ornicard? Nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait des lois pour l'équité. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
Barataclao,
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 barataclao. Voyez-vous ces donneurs de leçons,
barataclao.
Qui répondent à toutes les questions,
barataclao.
Qui approuvent la surproduction,
barataclao.
Sans s'embarrasser de la pollution, y a plus d'écrevisses dans le ruisseau, les orchidées se sont fanées, les bouchons de liège.
André Mainviel, Barataclao, voilà, à la technique aujourd'hui, Julien Michel, Yann Bouillot, Christophe Papon. Réalisation de cette émission, eh bien, c'est Yann Chouquet, bien sûr, et Coy Nguyen. Et c'est Charlotte Perry qui a aidé Daniel Mermet à préparer cette nouvelle édition de Là-bas, si j'y suis, que vous pouvez retrouver demain. D'ici là, laissez tous vos messages sur le répondeur 01 56 40 37 37.